Chères auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, nous avons le plaisir ce matin d'être avec Madame Rana Slonim, qui est directrice de l'école Edel et du centre de loisirs rattaché à cette école. Bonjour.
Bonjour, je suis très honorée de parler sur les ondes de Radio Shalom Dijon.
Alors ce matin, nous vous rencontrons un petit peu pour que vous expliquiez à nos auditeurs quel est le projet, les fondamentaux du projet qui structure votre école et votre centre de loisirs.
Je vais commencer par quelque chose de très simple. Dieu n'a pas voulu donner la Torah sans avoir une garantie. Donc il y a plusieurs garanties qui lui ont été proposées, les sages, les patriarches, les anciens, tout ça n'a pas convenu. Quand ça a été le tour de proposer que la garantie soit les enfants, que les enfants soient les garants de la Torah, là il a accepté de la donner. Et donc j'allais dire que c'est un peu notre leitmotiv, c'est la transmission du judaïsme aux enfants.
Nous y reviendrons donc sur cette spécificité de cette école, mais vous êtes aussi une école et aussi un centre de loisirs. Alors quels sont les objectifs éducatifs hein, par ailleurs, nous reviendrons évidemment sur ce point fondamental, quels sont les objectifs éducatifs de votre maison?
Alors bien sûr, nous avons le socle commun comme dans toutes les écoles, avec un niveau assez élevé. On voit les résultats des enfants qui quittent l'école. Et donc notre spécificité, c'est donc les langues. Edel veut dire éducation et langue. D'accord. Donc dès la toute petite enfance, on introduit non seulement des chansons en anglais, en hébreu et en espagnol, mais également on leur apprend à se présenter. Il y a des moments informels où on parle dans cette langue, c'est-à-dire pendant les repas, enfin dans ces différentes langues plutôt, pendant les repas, pendant les récréations, pendant les moments de sport. Et quand ils passent en sixième, ces enfants-là, ils sont vraiment très très à l'aise avec les langues. Et puis j'allais dire aussi la plasticité du cerveau pour les langues, quand elle est entraînée assez tôt en âge, ça porte des beaux fruits.
D'accord. Alors peut-être rappeler quelques éléments de ce que c'est qu'une éducation scolaire, parce que tout le monde ou a oublié ou ne sait pas ce que sont les fondamentaux d'une école pour grandir et...
Bon, ben, quand je disais le socle commun, c'est tout ce qu'on apprend dans toutes les écoles, le français, les maths, l'histoire, la science, etc. Et dans notre école, c'est aussi, il y a une bienveillance de rigueur, j'allais dire. Et le fait qu'on soit un tout petit nombre, c'est comme un genre d'école pilote finalement, où on suit vraiment chaque enfant et on le pousse à progresser au fil de ses acquis, au maximum de ce qui peut arriver. Enfin, c'est certainement pas le maximum, parce que les enfants peuvent toujours plus, mais disons que dans une classe classique, il y a le programme pour tout le monde, il y aura toujours les meilleurs de la classe, les moins bons, et puis la majorité se situera dans la moyenne plus. Chez nous, il y a, on va dire, un programme pour chacun, c'est très différencié.
D'accord. Oui, c'est donc une des spécificités de votre travail, c'est-à-dire que vous pouvez individualiser au maximum la prise en charge.
C'est presque du cours particulier.
Très bien. Mais il y a toujours quand même la dimension du groupe, la dimension du collectif,
qui est
à la fois un outil, mais à la fois un objectif.
Bien sûr, donc apprendre à vivre ensemble. Donc ce que je disais, c'est que dans cette école, j'ai commencé à vous répondre par le judaïsme. C'est vrai que le judaïsme prône donc l'amour du prochain. Je vais raconter une histoire qu'on a présentée pendant notre fête de fin d'année. C'est un non-juif qui voulait se convertir au judaïsme et il a été voir Hillel et Shammai, deux grands sages. Donc Shammai a dit, il voulait apprendre la Torah sur un pied. Il lui a dit que c'était absolument impossible. C'était pour lui-même presque un affront. Tandis qu'Hillel lui a dit, écoute, sur un pied, ok, pas de souci, Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ça, c'est la base de la Torah. Mmh. Et le reste n'est que commentaire, donc vous pouvez aller étudier le reste, tous oui. les commentaires.
Ça, donc, nous avons compris qu'il y a des chamailleries, mais qu'elles n'empêchent pas des décisions et un accueil possible pour tout le monde, si je comprends bien le sens de votre histoire.
Des chamailleries, bah, comme chez tous les enfants, je suppose, oui, il y en a quelques-uns, quelques-unes, mais c'est pas... C'est rare, on va dire que c'est quand même rare, mais oui, vous vouliez parler de chamaillerie
à propos de Chamaï.
À propos d'Hillel et de Chamaï, exactement. Donc effectivement, c'était des sages qui se chamaillaient tout le temps, oui. qui n'étaient jamais d'accord, mais ça n'empêchait pas une très belle entente entre eux, oui, oui.
Et puis de trouver une voie du milieu souvent respectueuse et efficace. Donc comment les valeurs que vous enseignez? On parle beaucoup de perte des valeurs, etc., mais en tout cas, ce n'est pas le cas dans votre école, vous y prenez garde. Mais comment ces valeurs se traduisent dans les activités que vous conduisez avec les enfants?
Comment ça se traduit? Bien, déjà par la réflexion, par des histoires, par beaucoup d'histoires de nos sages, mais aussi en faisant des genres de débriefing. Comment est-ce qu'on s'est senti, est-ce que par exemple si un enfant pleure parce que par exemple quelqu'un s'est moqué de lui ou lui a cassé quelque chose, enfin on en parle pour développer l'empathie de l'enfant. Et vraiment c'est comme dans une famille où les frères ne se chamaillent pas, vraiment ils sont puis je parlais des plusieurs niveaux qu'il y a dans la même classe, donc il y a des moments dans la journée où chaque niveau est pris à part pour par exemple une leçon plus ardue ou quelque chose comme ça, mais la plupart du temps ils passent quand même la journée ensemble, et donc c'est très naturel chez les enfants de vouloir expliquer à l'autre quelque chose qu'il a compris, de l'aider à faire un exercice, de l'aider dans son art plastique. Enfin, c'est vraiment... ils sont comme des cousins, oui. finalement.
Oui, donc il y a une réflexion, une prise de distance, et puis des
voilà. allers-retours. Voilà, il y a beaucoup de réflexion, on discute beaucoup avec eux, parce que le but, ce n'est pas seulement de leur apprendre les fondamentaux qui sont nécessaires, bien sûr, mais c'est aussi de les aider à grandir. Ils passent quand même 8 heures par jour à l'école. Donc c'est très important qu'ils apprennent le vivre ensemble d'une manière très bienveillante.
Vous parliez d'empathie, c'est vrai que je pense notamment au psychanalyste Serge Hefez, qui est interviewé il n'y a pas longtemps sur une radio, qui est assez connu en France hein, pour sa réflexion sur l'éducation, l'évolution des adolescents, qui étaient très inquiets parce que justement, ils trouvaient qu'il y avait une baisse de la capacité d'empathie des jeunes aujourd'hui, et qui aurait peut-être un rapport en tout cas avec l'expression violente dans les comportements. Mais cette empathie, cette bienveillance ferme dont vous parliez, je crois que c'est important aussi, peut-être vous disiez un mot sur le fait que chez vous il y a des règles très strictes, et qu'on le voit sur les murs, il y a des rappels, on rappelle aux enfants un certain nombre de règles fondamentales, pour le travail, pour la relation aux autres, peut-être en dire un mot parce que elles sont là et oui. font aussi que ça fonctionne et que c'est un équilibre.
Oui, vous avez vu les affichettes des voilà. règles de récréation. Alors c'est vrai que c'est pas évident de mener une récréation qui soit valable aussi bien pour des enfants de 3 ans que pour des enfants de 11 ans ou voire 12 ans. Donc on a établi des règles ensemble, ce ne sont pas des règles imposées, on a réfléchi ensemble, les enfants ont préparé ce qu'ils voulaient dire, enfin les règles qu'ils pensaient importantes pour passer un bon moment, et c'est ce qu'on a fait donc ensemble, ils ont signé ensuite ces règles qu'ils ont eux-mêmes choisies avec nous, et effectivement ça se passe bien, mais c'est vrai que dans cette petite école, dès qu'il y a un désaccord ou dès qu'on sent qu'un enfant est un petit peu vexé de quelque chose, c'est tout de suite pris en charge. D'abord, ça se voit tout de suite, mm-hmm. vu le petit nombre, et on le prend en charge tout de suite. On a même fait venir une intervenante extérieure. Donc, chez nous, il ne s'agit vraiment pas de harcèlement, mais on entend ça partout. Mm-hmm. Et même si c'est à une toute petite échelle, qu'un enfant se sent un peu moins bien ou moquée par les autres pour une raison quelconque. On l'a fait venir et ça a fait beaucoup de bien à tous. Donc on essaye toujours de parer à tout problème qui pointe le bout de son nez, on va dire ça comme ça. Ensuite, on a également une rencontre à toutes les périodes de l'année, c'est-à-dire à chaque période. Il y a 5 périodes dans une année scolaire. Donc entre chaque période de vacances, on a un échange scolaire avec une grande école juive de Lyon, l'école Beth Menachem. Et les enfants ont beaucoup de plaisir à y aller. Et là-bas, ils se retrouvent dans une classe de 25 ou 30 enfants. Et donc, ils se rendent compte du changement. Enfin, c'est tout à fait normal, mais ils sont très, très contents aussi. Et ça les prépare pour leur avenir où ils seront sûrement dans des grandes classes. Donc, ils ne vont pas tomber de haut. Ils savent comment ça se passe. Et puis, ils se font aussi surtout plus de copains et copines.
Alors, pour revenir quand même sur la transmission, on est dans une école juive, donc comment se transmet, disons, l'identité juive, à minima, dans votre école ?
On y vient. Donc, effectivement, la majorité des heures de cours seront consacrées au socle commun, mais ce petit temps de cours qu'on a et la prière qui suit la prière du matin, ou pas forcément, des fois c'est un autre moment dans la journée, ce petit temps est très important parce qu'on apprend donc la Torah, la Bible depuis son début. Donc on voit dans les textes la création du monde, les premiers hommes, etc. Et on apprend aussi les fêtes juives. Donc c'est un minimum pour la transmission de leur identité. Et ces dernières années, nous avons également fait un travail d'histoire de la famille. Parce que chaque enfant, s'il cherche dans son histoire, il a un illustre ancêtre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Du coup, ça a mis à contribution les parents, les grands-parents, des fois les arrière-grands-parents. Ils ont cherché, ils ont ressorti des photos. Le fait de savoir d'où ils viennent et de comprendre l'histoire depuis son début, parce qu'on a tendance à connaître l'histoire depuis Adam jusqu'à Moïse, éventuellement Josué, quelques rois, mais on ne connaît pas très bien l'histoire après. Donc si on prend le temps à l'envers, bon, on remonte jusqu'à la Shoah. Mais entre Josué et la Shoah, il y a eu quand même quelques milliers d'années. Et donc, on s'est attaché à, alors pas en détail parce que sinon on n'aura pas le temps, mais on s'est attaché à connaître un petit peu cette période de l'histoire, c'est-à-dire entre l'année, pour nous qui calculons l'année où on est maintenant, en 5785, et depuis la création du monde et la naissance, enfin la création d'Adam et Ève. Donc pour nous, c'est depuis, on va dire, environ 2000 ans d'histoire qu'on a essayé de traverser avec les enfants. Donc j'arrive à dire que nous avons choisi, donc, pour cette fin d'année scolaire, 9 personnages pas spécialement connus, justement pour faire voyager nos enfants dans leur histoire.
Très bien, donc c'était important d'amener ces précisions. Vous avez parlé du fait que les enfants étaient beaucoup acteurs dans cette école, donc on ne va pas revenir là-dessus. Par contre, il y a un domaine qu'on sent physiquement quand on vient chez vous, c'est qu'il y a il y a beaucoup de peintures, beaucoup de dessins, beaucoup de choses fabriquées à la main. Peut-être parler un petit peu de comment vous favorisez la créativité, l'initiative, parce que c'est quand même important. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de belles choses faites avec les enfants ou par les enfants. Peut-être en dire un mot parce que ça semble jouer, avoir de l'importance en tout cas.
Oui, certainement. Mais c'est vrai que les murs sont très colorés. Alors ça, ça a été fait par les premiers enfants il y a 28 ans. Et c'est encore là. Donc ces enfants sont pour la plupart déjà des parents. Et certains emmènent leurs enfants ici. Donc oui, c'est très intéressant. Et oui, bien sûr qu'ils sont acteurs et on les encourage évidemment à créer tout ça parce que ça leur donne une bonne image d'eux-mêmes et ça leur donne une assurance de réussite. C'est comme un petit cocon pour les préparer à la vie prochaine. Quelque part, le monde n'est pas toujours tendre, hein, comme on le sait bien. Mais ici, on essaye de leur donner tout notre amour et de les complimenter, de les pousser à la créativité parce que ça leur donne beaucoup d'assurance.
En tout cas, très beau dessin parce que j'ai vu qu'il y avait eu des fêtes fin récemment et il reste encore des traces de très beaux dessins qui ont été faits il y a peu de temps par les enfants. Alors, il y a peut-être un dernier point. Vous avez évoqué tout à l'heure l'impact de votre travail et de votre savoir-faire en termes de résultats, suivi très individualisé, préparation pour la suite pour être dans des écoles plus difficiles parce qu'il y a plus de monde. C'est plus les mêmes enjeux, évidemment, quand on grandit. Peut-être parler de la relation avec les familles, cette question justement de la confiance, du travail, de l'évaluation, de l'évolution des enfants. Comment vous travaillez un petit peu avec les familles ?
Oh ben, je pense que, comme dans toutes les écoles, bon, effectivement, le nombre est moindre, donc on a peut-être plus de temps pour échanger que dans une école dite classique. Mais oui, on est très, très proche des parents dans le cadre du suivi des enfants, bien sûr.
Il m'a semblé que les parents étaient un peu plus associés à la réflexion que dans les écoles traditionnelles.
Oui, tout à fait. C'est un travail d'équipe. Forcément, par exemple, un exemple tout bête, pour les séances de PS, d'éducation sportive, on demande aux parents qu'est-ce qu'ils auraient aimé pour cette année, par exemple. Si l'an dernier, on a fait roller et trottinette, est-ce qu'ils aimeraient qu'on retourne à la patinoire parce que ça fait 5-6 ans que le cycle sportif patinoire n'a pas été renouvelé. On les associe à notre réflexion. Est-ce qu'on va plus souvent à Lyon, moins souvent à Lyon? Quel genre de goûter on donne aux enfants? Parce que la diététique aussi, c'est important. Et donc, on prend des décisions ensemble avec les parents. Oui, certains vont dire qu'en hiver, ce serait bien d'avoir plus de soupe, moins de soupe, enfin... C'est quelque chose qui peut paraître complètement sans signification spécifique, mais finalement, le bien-être de l'enfant, c'est très important. J'en profite pour saluer notre cuisinière qui est exceptionnelle et qui est vraiment à l'écoute de chaque enfant. Si un jour un enfant ne va pas aimer ce qui est présenté, proposé au menu, elle va lui faire autre chose pour qu'il ait quelque chose à manger, qu'il aime, bien sûr.
Alors ça peut être difficile pour les parents après, parce que si les parents ne pratiquent pas cette gymnastique,
c'est vrai.
Vous allez les mettre en difficulté.
Mais c'est une mamie, c'est la mamie de l'école, on ne peut pas l'empêcher de faire ça, et puis je pense que les enfants comprennent les différences qu'il peut y avoir entre un endroit et un autre.
Très bien. En tout cas, ce qui est intéressant dans notre école, c'est l'équilibre entre l'identité, la transmission du judaïsme, comme vous l'avez dit tout au début, et puis l'ouverture sur le monde et le rapport avec le reste de la société française, qui est très clairement mis en place chez vous. Comment voyez-vous l'avenir de ces écoles juives actuellement en province, puisque on a un changement démographique, on a un changement historique. En tout cas, quels sont vos souhaits, quels sont vos projets pour l'avenir en Bourgogne-Franche-Comté où nous sommes?
Écoutez, on souhaite que cette école puisse se remplir de plus en plus d'élèves. Après, j'allais vous dire que nous vivons au présent avec les enfants que nous avons actuellement et nous faisons le maximum pour bien les accompagner.
Très bien. Je vous remercie, Madame Slonim. Je rappelle que vous êtes directrice de l'école Edel à Dijon et responsable évidemment du centre de loisirs qui est attaché à cette école. À très bientôt et dire aussi aux auditeurs qu'une autre émission suivra où il sera question des figures historiques dont vous avez parlé dans l'entretien et où des élèves présenteront le travail qu'ils ont fait pour la fête de l'école en 2025. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous et merci à Radio Shalom d'être là à Dijon.